La mort.
La mort.
La mort.
La mort.
Les morts.
La mort.
La mort.
La mort.
Printemps mortel, la mort sur les ondes, du 18 avril au 21 juin. Le printemps mortel est organisé par le Centre social La Paz, la Maison de quartier des Ors, Radio Royan Vercors, Thanatosphère et les PEP.
On parle de la mort ce mois-ci, d'existence,
du deuil,
d'émotion,
de l'au-delà,
d'amour immense,
de soins palliatifs,
défunts ou défuntes,
en souffrance,
peur de la mort, tristesse,
rituel, sépulture,
à tous les morts,
violentes ou prématurées,
ramener la mort dans l'espace public.
Chaque semaine, une sélection spéciale de Radio Royan Vercors, 93 FM.
Pour accompagner et vivre le deuil.
Parler avec les morts.
Il y a plein de petites morts.
Comme une ombre parmi les vivants.
La seule certitude qu'on a dans la vie.
Finalement, la mort fait partie de la vie. La mort, on y est tous et toutes confrontés.
Grande communauté invisible, des personnes qui doivent vivre avec.
Des émissions inédites pour parler de choses sérieuses avec légèreté.
On peut aussi parler de la mort sans être glauque, sans être grave, sans être... Il n'y a pas que de la tristesse, en fait.
Cette semaine, dans les Rendez-vous mortels, nous vous proposons une interview inédite de Solène Briand, artiste de la compagnie La Subliminale Compagnie, qui propose le spectacle Papillon Noir, un spectacle de magie sur la mort, histoire de se tenir la main une première ou une dernière fois. Un spectacle présenté à la Navette à Saint-Laurent-en-Royans le vendredi 13 juin à 20h. Solène nous parle de son travail et de comment il parle de la mort dans ce spectacle. Cette interview sera suivie de musique sur le thème de la mort, une sélection réalisée par Mbalou de la compagnie La Pigeonnière. Dans le cadre du Printemps mortel, ce vendredi 13 juin à 20h, le spectacle Papillon Noir vous est proposé à la Navette, la salle qui appartient à la CCR. Nos collègues de la CCR accueilleront ce spectacle. C'est un spectacle dès 12 ans et c'est un spectacle pas banal parce que ça parle de magie et puis ça parle de la mort puisqu'on est dans le cadre du Printemps mortel. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Solène Briand, membre de la compagnie La Subliminale. Bonjour Solène.
Bonjour.
Très content de te recevoir ce matin dans les studios de Radio Royan. On va faire un tour d'abord sur qui tu es et puis quelle est cette compagnie. Puis après, on va un peu plonger dans la particularité de ce spectacle de magie sur la mort. La Subliminale Compagnie, c'est une compagnie qui est basée où et qui fait quoi?
Alors, elle est basée à Nozières, au cœur de l'Ardèche. Et c'est une compagnie qui travaille sur, à partir de la discipline magie, mentalisme, hypnose, et qui essaie de développer des spectacles, disons, un peu atypiques pour le monde de la magie. On travaille un peu à rebrousse-poil des clichés. On va pas faire des apparitions, des disparitions, des choses comme ça, quoi que ça puisse arriver, mais disons qu'on va utiliser cette discipline pour aborder des thématiques comme dans Papillon Noir, la question de la mort, la question de l'euthanasie, de la sédation profonde et définitive, ou dans d'autres spectacles, des thématiques qui sont un peu grattantes, un peu frottantes, des endroits un peu tabous dans la société.
Des enjeux de société, des questions qui comptent.
En tout cas qui moi me préoccupe et puis que j'ai envie d'amener sur scène.
Et dans ton parcours, comment tu t'es retrouvé à être mentaliste ou magicien, on dit ?
Ah oui, c'est une bonne question. C'est un petit peu par hasard. C'est toujours un peu par hasard de toute façon nos parcours, j'ai l'impression. Mais
est-ce qu'il y a vraiment des hasards ? On va pas se lancer sur de la philosophie là-dessus, mais
bon, en tout cas, j'ai à l'origine, moi, j'ai fait un parcours universitaire. J'ai fait de l'histoire de l'art, de l'archéologie, puis de la psychologie. Et ensuite, comme j'étais un peu dans une espèce de passion pour le cirque, je me suis mis à faire du spectacle et des formations du coup en art du cirque. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu une espèce de pratique amateur de la magie qui finalement, d'année en année, s'est solidifiée pour devenir l'essentiel de mon travail artistique.
Et quand on dit de la magie, est-ce qu'on est sur un peu la caricature de la magie, des tours de cartes, couper des personnes en deux dans des boîtes, transpercer des choses, enfin la magie un peu spectaculaire qu'on voit dans de la magie classique, disons.
Alors j'ai envie de répondre oui à fond et en fait pas tout à fait. Je me suis toujours passionné pour cette forme de magie-là qu'on va appeler la magie moderne, qui est porteuse d'une espèce d'aura à la fois de mystère un peu comme ça un peu cliché et en même temps d'une espèce de joie un peu d'un enthousiasme un peu enfantin comme ça et du coup j'ai toujours essayé de garder cet aspect là tout en plongeant dans des dynamiques artistiques un peu plus sérieuses, je sais pas comment les appeler, mais voilà, de garder cette tension entre le côté populaire de cette pratique, qui est un vrai cheval de Troie, parce que ça peut amener des tas de gens qui se seraient pas du tout aventurés dans mes spectacles et dans mes thématiques à venir les voir, alors que voilà, de base, c'est pas forcément leur tasse de thé. Mais là, c'est une manière d'aborder ça de façon joyeuse, on va dire. Non, mais bêtement joyeuse, en fait. Et puis, d'un autre côté, ben, effectivement, c'est pas une pratique où on va retrouver les paillettes habituelles. Et en même temps, voilà, j'essaye de pas perdre ce fil-là, quoi.
C'est un petit équilibre ouais. Entre le côté, comme tu dis, populaire et puis les thématiques que tu as envie d'aborder, j'imagine. Comment on travaille quand on est magicien mentaliste? Comment on travaille tout ça? Ça me pique ma curiosité de me dire, mais on s'entraîne à faire des tours. Comment ça se bosse?
Ouais, il y a cet aspect-là, il y a un aspect apprentissage qui est quotidien, où on est en permanence en train de brasser les tours des autres. Il y a beaucoup de transmissions, une énorme littérature, une énorme quantité de vidéos qui sont produites par les magiciens. Et du coup, on essaye de se tenir au courant de ce qui se fait et des évolutions, des nouvelles pistes. Et puis d'un autre côté, on est sur le développement de nos axes à nous. Et ça, ça a un gros avantage, c'est que ça se passe beaucoup dans la tête. Effectivement, c'est beaucoup de rêves. J'ai l'impression beaucoup de rêveries éveillées, de réflexions. Et après, il y a un deuxième aspect qui est la mise en œuvre, où l'enjeu, ça va être d'essayer de donner corps, donner vie à ça. Du coup, ça passe par quelque chose d'une expérimentation publique et que moi, je revendique comme une forme de création, c'est-à-dire se lancer pour donner forme aux rêves et voir comment ils se frottent à la réalité, au regard du public. Donc, il y a un aspect qui est très solitaire, très perdu dans nos têtes, quoi. Et puis un aspect qui est éminemment en contact avec l'humanité autour, quoi.
Quelque chose d'intérieur qui doit sortir, ouais. Rencontrer l'extérieur, quoi.
Et par rapport à ça, du coup, moi, je me suis rendu compte, là, maintenant, ça commence à faire une vingtaine d'années que je bosse sur cette discipline-là, et en fait, ça se passe énormément dans la conversation. C'est-à-dire que un échange, donc un peu profond, bien sûr, hein, mais autour des sujets que je veux aborder, va m'amener à structurer progressivement les spectacles. Là, le dernier spectacle qu'on a créé qui s'appelle Nos blessures filigranes, en fait, ça fait un an et demi que je le travaille dans la conversation. Et on a, là, très récemment, fait une sortie de résidence parce qu'on travaillait à la Cascade, donc le pôle national des arts du cirque de Bourg-Saint-Andéol, qui est pas très loin d'ici. Et on a sorti un spectacle de 2h30 en 5 jours. Et ça a été possible, en fait, parce que la réalité, c'est qu'on l'avait travaillé pendant un an et demi avant, quoi.
Oui, c'est toute cette dynamique de recherche, de travail qui se passe dans les interstices, dans les échanges, dans les lectures, j'imagine.
Oui, et qui est souvent pas identifié comme un travail à part entière. Et moi, là, j'essaie de faire entendre aussi au niveau institutionnel comme faisant partie pleinement du processus créatif.
D'un travail de recherche, quoi, dont il y a besoin. Et si on plonge un peu dans ce spectacle Papillon Noir, il s'agit de la mort, c'est un peu tout ce qu'on sait, il s'agit de magie. Comment t'es venue cette idée-là, ce projet-là? Tu me disais hors micro que c'est un aboutissement de 7 ans de travail, j'imagine de recherche aussi, mais comment ça s'est passé ce travail-là?
Alors c'est au tout départ, hein, la pulsion initiale, c'est le décès de ma maman, qui a eu lieu en 2017. Et pour lequel c'est un décès qui avait quelque chose de très classique, dans le sens où elle a eu un cancer et du coup elle a passé un processus dans les soins palliatifs. Et moi j'ai essayé d'accompagner ça et du coup pour pas trop perdre pied dans ces moments un peu solitaires et difficiles, j'ai écrit. Et du coup j'ai produit des textes que j'ai lus lors de sa cérémonie de crémation. Et il y a pas mal de gens qui ont pointé ces textes en disant que ça leur avait fait du bien, que ça avait servi à quelque chose en tout cas. Et c'est resté en jachère pendant quelques années, jusqu'à ce que j'ai l'opportunité de proposer un spectacle un peu dans ce contexte de crash test, quelque chose comme ça qui n'avait pas vraiment d'enjeu, qui est né très spontanément. Et il y a eu l'envie de mettre en scène ces textes. Et voilà. Et du coup, il y a eu une sorte de rencontre entre des effets de magie qu'on appelle de close-up, c'est-à-dire de proximité, un espace où les gens sont très proches de moi, et la lecture de ces textes qui petit à petit sont venus s'intercaler. C'est resté en jachère encore longtemps. Et à un moment, il y a eu des personnes qui m'ont appelé à reprendre un peu cette création-là et à en faire quelque chose de plus abouti. Et du coup, ça nous ramène en 2022 où on a commencé à avancer là-dessus. Puis on a agrégé à cette forme-là une exposition. Puisque voilà, ma mère était peintre et que l'enjeu dans ce spectacle, c'est de brosser une espèce de portrait d'elle en filigrane, pour évidemment ramener les problématiques que j'ai traversées autour de sa fin de vie, pour pouvoir les faire entendre, parce que après son décès, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit « Ah ouais, moi, ça s'est passé exactement pareil ». Et je suis tombé des nues parce que, enfin, je lui ai dit immédiatement « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé ?» Parce que il y avait quelque chose d'assez intense, choquant, et du coup, j'avais l'impression d'être unique. Alors que finalement, c'est quelque chose qui avait l'air de se produire pas si rarement. Donc j'ai eu envie d'en faire part publiquement, de manière un peu à alerter, prévenir, je sais pas, en tout cas essayer de mobiliser une attention sur ces situations-là. Et voilà, donc ça c'est pour un peu parler de...
Oui, ça me fait penser que oui, c'est très universel la mort, c'est peut-être très universel mourir en soins palliatifs d'une maladie longue, bon, mais c'est singulier à chaque fois, parce que la personne va être ce qu'elle est, et son entourage va être ce qu'il est, et du coup, oui, cette personne a probablement vécu quelque chose d'assez similaire, et à la fois, ce sera singulier pour chacun de vous. Alors, et toi, tu choisis ta matière là pour en faire quelque chose.
Dans nos vécus, c'est singulier, mais on fait société et on est en train de standardiser quelque chose aussi de ce côté-là pour permettre des fins de vie paisibles. Et dans cette standardisation, il y a parfois aussi des aléas, des phénomènes qui sont liés au cadre institutionnel et que les choses se passent pas de manière si sereine que ça. Et donc voilà, nous donc avec la Subliminal Compagnie, on a eu envie de pointer ça du doigt d'une façon à la fois légère et en même temps précise et avec une petite pointe de colère parfois pour pas que ça passe complètement à la trappe.
Qui dénonce aussi des choses plus structurelles, plus sociétales, plus sociétaux, quoi. Une forme de coup de gueule
à travers des tours de magie, quoi.
Et donc la magie est venue parce que ça aurait pu garder cette forme de texte finalement mis en scène, et la magie est revenue se glisser là-dedans.
Oui, parce que ça vient aussi. Alors il y a un côté comme je le disais tout à l'heure, il y a un côté, ça apporte une forme de légèreté, une forme d'humour aussi, et puis ça rend ça permet de préparer l'accueil aussi pour les spectateurs, de se rendre disponible à entendre des passages qui sont souvent réservés à des sphères extrêmement privées et qu'on a peu l'occasion d'avoir dans l'espace du commun.
Oui, j'allais te demander comment finalement quelque chose d'assez autobiographique ou en tout cas intime est mis là en scène. Ça me fait penser donc à ce plateau qu'on fait avec Mbalou et Claire sur la mort, une matière artistique comme les autres. C'est un sujet, encore une fois, universel, sociétal et à la fois profondément intime et singulier. Et comment toi, ce processus-là, il t'a habité pour finalement le donner Est-ce que t'as eu peur, par exemple, d'être intrusif ou trop... tu vois, entre quelque chose de très exposant comme ça et puis des retours des gens qui finalement viennent dans ta matière, qui est toi, ton intimité. Enfin, comment ça s'est passé tout ça?
Ouais, c'est pas évident. Hein. Je t'avoue que sur les premiers temps de ces préparations-créations, je passais une semaine à somatiser avec des gastros, des grippes, des maladies, des trucs comme ça, juste avant de jouer, quoi. Qui faisait que d'ailleurs j'avais du mal à travailler le spectacle parce que ça venait toucher une zone intime et une zone fragile aussi, et puis peut-être que moi j'avais du mal à assumer, à saisir. Donc c'était pas simple pour moi d'abord de base. Ça a été aussi une façon peut-être un peu thérapeutique hein, de faire un deuil qui était pas simple. Alors est-ce qu'on a le droit ? Ça c'est une autre question. Hein. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Est-ce qu'on a... Bon, bref, voilà. Moi je me suis donné ce droit-là. Et puis je me suis rendu compte qu'en me donnant ce droit, en osant un peu évoquer ça, il y avait quelque chose d'un petit peu émancipateur parce que ça permettait à d'autres gens d'en parler aussi et de m'en faire part à l'issue du spectacle ou bien d'entrer en dialogue avec des proches à eux. C'est ce truc un peu là de quand je m'autorise à parler de quelque chose, ça t'autorise aussi à en parler.
C'est ce truc là de comment effectivement sur la question de la mort qui est un sujet on peut dire tabou, à la fois l'intimité, quelqu'un qui dévoile son intimité, son processus de deuil par exemple, ou qui utilise la scène pour ça, droit ou pas droit, on répondra pas à la question là, mais ça autorise et ça permet des choses. C'est pas que dans quelque chose d'exhibitionniste, pour le dire un peu crûment quoi. C'est aussi pour permettre un mouvement singulier et collectif, quoi.
Voilà, et donc effectivement, alors j'ai du mal à répondre à ta question parce que ça vient un peu activer des choses dans ma tête, mais oui, la mort c'est un peu tabou. Et là, comme je te disais récemment, on a sorti un autre spectacle donc, qui s'appelle Nos blessures filigranes sur la question des violences, et notamment des violences incestuelles. Et là, on est dans un tabou qui est tellement au-dessus que d'un coup, pour moi, la mort, c'est un peu les vacances. C'est un peu un sujet genre assez paisible, finalement. Mais c'est vrai qu'au démarrage, en tout cas, de cette création, pour moi, c'était pas simple. Et c'est aussi pas simple parce que, alors sans spoiler, hein, bien sûr, mais dans le spectacle, il y a une scène particulière où je parle de la question de l'euthanasie versus la sédation profonde et définitive. Et donc c'est là pour le coup c'est un endroit qui fait débat à l'heure actuelle. Et puis d'ailleurs c'est assez drôle parce que très récemment
c'est complètement actuel.
Voilà. Du coup ça vient heurter des susceptibilités, des sensibilités. Donc bien sûr dans l'écriture du spectacle, moi j'ai essayé de faire hyper attention à parler de ça de façon parfois très crue, tout en étant bien conscient que dans le public, il y a des gens qui sont peut-être en train de le traverser au présent. La première fois que je l'ai joué, il y avait dans le public quelqu'un qui venait de sortir d'un cancer. Qui a vécu ça en se disant « Waouh, je suis passé pas loin de ce qui est en train d'être amené là. Et j'avais pas du tout pensé à ce type de regard, mais bon voilà, maintenant on le prend bien en compte. Et donc c'est quelque chose qui est à la fois précieux pour nous de savoir que ces personnes sont dans le public, et en même temps qui pour moi, enfin j'essaye d'être hyper attentif à la question de l'autocensure là-dedans, et à négocier de façon à pas me piégé avec ça.
Voilà. Ouais, bon. J'imagine que c'est subtil entre ce que tu as envie de dire, besoin de dire, ton élan créatif à toi. Et après, effectivement, il y a tout plein de singularités différentes dans le public, plein de gens qui le reçoivent avec ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent.
Voilà. Et globalement, voilà, ça fait maintenant 2 ans que le spectacle s'élabore et commence à aboutir. Globalement, la plupart des spectateurs accueillent ça d'une façon vraiment paisible, intense mais paisible. Et l'endroit de vrai frottement à l'heure actuelle, c'est avec les professionnels des soins palliatifs.
Bien sûr.
Du coup, je renégocie ça de moi à moi-même hein, pour essayer de trouver l'endroit où c'est satisfaisant à la fois pour eux et pour moi, mais qui sont très très pointilleux sur toutes les questions que j'aborde et qui ont pas envie qu'on dénigre leur travail parce qu'ils font un travail qui est important. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai beaucoup d'équilibre à trouver.
Ouais. On va dire. Mais j'allais te demander comment ça se passe dans les différentes représentations que tu as eues. Est-ce qu'il y a un temps de parole animé après ? Est-ce que toi tu te rends disponible ? Après tu sors de scène, donc voilà, mais pour accueillir des retours, et des retours qui sont quand même, j'imagine, chargés. Comment ça se passe tout ça ?
Alors on a en fait le spectacle c'est un moment spectaculaire et une espèce de peau de départ à la fin qui est aussi un vernissage d'exposition parce que donc c'est un spectacle et une expo, et nous on revendique ce moment-là comme faisant partie du temps artistique à part entière, et on le prévoit parce qu'il y a besoin. Il y a besoin de ça, il y a besoin d'évoquer. Et c'est assez drôle parce que ça ressemble un petit peu à un café mortel, comme on va pouvoir en trouver dans le Printemps mortel. C'est pas un café mortel, bien sûr, parce que
le cadre n'est pas du tout le même.
Mais on a eu cette envie-là, alors qu'on connaissait pas encore ce processus.
Concept, ouais. Ouais.
Et donc, les gens peuvent partager un petit verre, manger quelques cacahuètes et en même temps regarder l'expo, discuter avec moi, discuter avec Iris Hervouet, qui est à la fois ma régisseuse complice et regard sur ce spectacle, et donc élaborer un peu et donc faire retour sur ce qu'ils ont vu, mais aussi sur leur traversée à eux de certains événements. Et c'est un moment qui est vraiment super important pour moi. Mmh. Et là, on est en train d'essayer de le designer, de l'affiner. Mmh. Pour justement, parce qu'on rentre d'un coup dans des conversations qui sont privées, que tout le monde évidemment peut partager à un moment ou à un autre, mais on n'est plus dans un rapport de groupe. Et donc on est dans une parole qui est plus publique, un autre genre de parole. Moi j'appelle la parole privée, à défaut d'avoir d'autres mots, mais qui permet d'autres choses.
Oui, et puis qui peut-être a besoin d'animation aussi. Enfin, quand je dis animation, oui, c'est un cadre, un contexte pour veiller à l'équilibre, pour veiller aussi... les besoins des personnes ne sont pas les mêmes, et c'est pour ça que le café mortel, il y a un cadre assez simple, mais quand même, néanmoins, qui permet que la parole soit souveraine, se libère, n'empiète pas les uns sur les autres. Et j'imagine qu'après un spectacle, ça peut être le déclencheur de choses, mais si le cadre est flottant...
On est en train d'élaborer là-dessus. C'est vraiment l'endroit depuis quelques semaines là, sur lequel on essaie d'être attentif. Et voilà, on agrège, on tente, on expérimente un peu là-dessus.
Ouais. Donc Papillon Noir à découvrir ce vendredi 13 juin à 20h. Et tant que j'étais au bout du micro, quand même, ça me pique ma curiosité, cette histoire de nos blessures filigranes. Mm-hmm. Est-ce que t'es d'accord d'en dire deux mots, même si c'est un travail qui est en cours?
Ah oui, avec plaisir. Alors bon, là je suis encore très confus dessus, mais c'est donc une conférence gesticulée. Voilà, qui va évoluer, qui dérape un peu, qui dérive vers quelque chose de spectaculaire, mais donc dans l'enjeu, le plot, on va dire, c'est d'interroger le frottement entre dissociation traumatique et dissociation hypnotique. Parce qu'on se rend compte que ça se ressemble tellement que peut-être, en fait, ça obéit à des mêmes logiques, on va dire, cérébrales. Et on a commencé du coup à tirer cette pelote-là tout doucement pour voir où est-ce qu'elle nous emmenait. Et en fait, ça nous a fait faire un grand voyage dans les violences, dans la question des violences, donc à la fois intimes et évidemment structurelles. Mm-hmm. Je vais pas hésiter à utiliser le gros mot de patriarcat pour en parler. Et donc c'est un gros voyage parce que c'est un spectacle qui dure 2h30 à l'heure actuelle, qui va un petit peu comme dans Papillon Noir. Je vais prendre cet axe autobiographique pour asseoir quelque chose d'une réflexion un peu commune, collective, hein, comme je sais plus qui disait ça, mais pour parler de soi, faut pas hésiter à parler de son village et vice versa, quoi. Il y a quelque chose qui nous touche un petit peu tous et toutes là-dedans. Et voilà, moi je me suis dit que là, pour le coup, la magie allait résonner assez fort, parce que la magie, c'est la discipline un peu du regard abusé, comme disait Guy Debord, et aussi par définition une façon de se saisir de l'autre de manière manipulatoire. En fait, pour moi, la magie, c'est un cauchemar. C'est pas du tout quelque chose d'onirique, cet endroit du rêve et du merveilleux qu'on peut un peu revendiquer. C'est plutôt un endroit terrifiant, en fait. C'est un endroit d'intrusion, un endroit de domination. Même si on peut lui donner des atours élégants, gracieux et délicats, la réalité de la mécanique de la magie, c'est quand même qu'on est en train de bricoler des choses avec nos spectateurs et nos spectatrices.
Et de les manipuler, de rentrer un peu dans leur
voilà.
Et alors, leur cerveau.
Même dans les thématiques, hein, je veux dire, la lecture de pensée, par exemple, qu'on trouve dans le mentalisme, c'est quand même aller, de manière illusoire, certes, mais quand même la promesse, c'est de dire, je rentre dans ta tête, j'y bricole quelque chose, et puis je vais accéder un peu grâce à de la télépathie, des choses comme ça. Bon, donc voilà, c'est une discipline qui est pas forcément de base si clean que ça. Et quand on gratte, quand on fouille un peu, en fait, la théorie de la magie, elle est très documentée. Hein. On connaît beaucoup de stratégies, de méthodologies, de subtilités psychologiques. Et si on fait des parallèles, ben, on se rend vite compte que toutes ces stratégies d'illusionnisme, elles ressemblent énormément aux stratégies des manipulateurs dans les violences domestiques, par exemple. Enfin, vraiment, il y a des similarités qui sont très, très strictes. Et donc, ben, on a commencé à pointer du doigt ce frottement-là, à faire un peu des démonstrations pour dire, ah ben là, regardez, quand je fais tel effet, ben en fait, on peut, il y a du gaslighting dedans, il y a toutes ces choses qu'on connaît un peu, qu'on a identifiées dans les violences un peu de, qu'on appelle aussi les perversions narcissiques.
Ouais, j'allais mettre le mot là-dessus. Après, il y a ça, un mot qui est un peu galvanisé, et puis on appelle un peu tout le monde pervers narcissique maintenant, mais je me dis, oui, comment, en fait, c'est de la matière hyper sensible à manipuler, parce que c'est sûr que là, pour le coup, dans ton public, il va y avoir un pourcentage non négociable de personnes traumatisées.
Oui.
Et l'idée, c'est pas justement de re-traumatiser. Ce qu'on peut déjà, bon, c'est des choses qui circulent aussi, comment l'hypnose des fois peut re-traumatiser, ou même des fois la psychanalyse, peut re-traumatiser parce que l'état de conscience modifié va être tellement proche que de l'état de sidération que quelque chose va pas être soulageant du coup là dans ton public
c'est exactement ça. Donc on prend en compte ça plus un autre truc aussi, c'est qu'il y a des agresseurs dans notre public.
Et ouais.
Donc on a les deux et tout le jeu c'est de s'adresser aux uns et aux autres avec des couches de lecture différentes et du coup de proposer c'est pas un accompagnement du tout, hein, mais de proposer des petites étincelles à certains endroits par le biais à la fois d'une espèce de psychoéducation, parce que ça reste une conférence, donc on amène aussi de la théorie, et en même temps c'est aussi un spectacle, donc une forme artistique, donc on amène d'autres espaces, un petit peu de, on va dire, de frottement, de grattement, et voilà. Et alors à l'heure actuelle, on est loin d'avoir abouti la forme, mais toutes ces problématiques-là, elles nous mobilisent et on voit là sur la tentative qu'on a pu faire que ben il y a une partie des gens qui vont avoir du mal à accueillir certains trucs et que ça va secouer, et puis une autre partie des gens. Alors nous, notre but, c'est justement que les personnes qui s'identifient comme victimes, ça les secoue pas et qu'elles puissent en sortir d'une façon sereine. Mais par contre, on a aussi envie qu'il y ait quelque chose d'un grattement qui se produise du côté
des agresseurs.
Voilà, j'allais dire de l'autre camp. Même si, bien sûr, encore une fois, voilà, il y a une superposition qui peut se produire dans ces deux statuts.
En tout cas, c'est hyper intéressant que le spectacle vivant se saisisse de ces sujets-là, et puis bon, des conférences gesticulées ou des choses spectaculaires sur les questions d'inceste et de violence sexiste et sexuelle, ça fleurit en ce moment. Après, comment la question du mentalisme et tout ça vient se mettre là-dedans, on est dans un niveau encore plus, j'ai envie de dire, subtil et intime. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Peut-être que tu le présenteras dans le Royaume.
Avec grand plaisir.
Dans le Vercors. En tout cas, je vois que t'as quand même envie de te frotter à des sujets pas simples, quoi.
Ouais, moi, je veux pas donner l'impression que je fais que ça, hein, parce que en parallèle de ça, j'anime aussi des mariages. Je veux dire, je fais de la magie très normale, entre guillemets. Parce que c'est super de pouvoir faire les deux et que ça me permet aussi d'assurer ma production d'une façon autonome, parce qu'en parallèle de ça, ces sujets, ils sont pas hyper sexy pour l'institution, mine de rien, et on galère quand même pas mal à faire œuvre. Ouais, c'est ça. Donc on se tourne vers autre chose que le champ de la culture pour pouvoir produire tout ça. Voilà, mais en même temps, quand on a la chance de pouvoir avoir l'attention de l'humanité, d'une partie des gens qui sont en face de nous, c'est dommage d'utiliser cette intention pour faire des choses uniquement légères. Et je trouve, c'est important pour moi et j'essaye de me tenir à cet axe-là, de proposer des choses qui comptent pour moi, quoi.
Et qui font réfléchir et qui font avancer.
Ça c'est j'espère. Mais
la société dans laquelle on est. Ben Solène, merci beaucoup. Et on rappelle que donc si on veut savoir des choses sur ton travail, c'est sur la Subliminal Company.
Alors www.solenebriand.com. Je précise le site parce qu'on a quelques problèmes de référencement. Du coup, il vaut mieux taper le nom du site directement.
Et on se retrouve le vendredi 13 juin à 20h à la Navette pour découvrir cette exposition. Donc l'expo des peintures de ta mère sera quand même là.
Toujours.
Accompagnée et qui accompagnera ce spectacle Papillon Noir que tu proposes plutôt pour 12 ans, à partir de 12 ans.
Oui, papa, un peu parce que c'est du mentalisme et que du coup il y a beaucoup de questions de, voilà, qui sont quand même assez lecture, écriture. Enfin, ça nécessite de maîtriser certaines données quand même. Du coup, en général, le mentalisme, on le propose à partir de cet âge-là.
Et les réservations sont à faire auprès du Centre Social La Paz.
Merci beaucoup pour
l'invitation. Merci Solène.
Pour continuer ces rendez-vous mortels, nous réécoutons l'interview réalisée par Anouchka de Claire Trochon de l'association Thanatosphère, une bénévole qui anime des cafés mortels dans le Royan.
Bonjour à toutes et à tous. On évoque ce matin un sujet qui peut paraître parfois grave, un peu triste ou un peu tabou, et pourtant qui nous concerne tous. C'est le thème de la mort qui s'invite ce matin dans les studios de Radio Royan Vercors. Et pour en parler, nous accueillons Claire Trochon, qui est co-animatrice d'un café mortel qui sera proposé ce mardi 4 juin à Saint-Thomas. Bonjour Claire.
Bonjour.
Donc ce café qui est proposé par l'association Thanatosphère et qui aura lieu donc à Jacopin à Saint-Thomas. Pour commencer, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'un café mortel ?
Alors, un café mortel, en fait, ça vient d'un sociologue suisse qui s'appelle Bernard Creta et qui a constaté qu'en fait, il n'y avait plus d'espace pour parler de la mort en collectif. Et du coup, en fait, lui, il a voulu ramener ça et ce sujet-là, en fait, de la mort dans l'espace public. Et du coup, un café mortel, c'est un café, donc on se retrouve entre personnes, un café, ça peut être des personnes qui viennent exprès ou des personnes qui sont juste là, présentes au café et qui en fait auraient envie de participer. Et donc l'idée, c'est de venir témoigner de la mort, du deuil, en toute simplicité, voilà, autour d'un café, d'une boisson qu'on choisira.
Donc aucune préparation préalable à ce café pour y participer. Mais c'est un moment qui se veut convivial malgré tout, malgré donc le sujet de la mort. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux termes qui sont rarement associés finalement ?
J'ai envie de dire la convivialité, elle vient du fait qu'on va se réunir et qu'en fait on va aussi se sentir moins seul, parce que souvent la mort, le deuil, ça met dans une forme d'isolement, déjà parce que comme tu disais, c'est tabou. Donc on n'ose pas en parler, ne serait-ce que, enfin voilà, des personnes qui vivent un deuil, souvent il y a je sais pas trop voilà comment parler, ou même qu'en soi il y a beaucoup de tristesse, souvent on a tendance à s'isoler, à s'exclure. Et le fait même en fait de qu'un groupe d'individus soit réuni et en parle et vienne témoigner, enfin moi personnellement c'est des témoignages en fait qui me touchent, parce que c'est notre humanité en fait, enfin c'est vraiment quelque chose de la mort, on y est tous et toutes confrontés, soit voilà la mort de personne, mais si je sais pas, la fin d'un travail, la fin d'une relation, enfin il y a tellement de deuil en fait qu'on vit tout le temps que ça permet de sentir voilà beaucoup moins seul, vraiment beaucoup beaucoup moins seul, et ça vient générer quelque chose de voilà dans le lien en fait, enfin de se sentir ensemble. Et effectivement souvent le deuil c'est pas facile en fait à traverser, enfin c'est vraiment une épreuve. Et donc c'est enfin pour moi voilà, c'est vraiment, et puis nous voilà, on prend aussi le parti pris, enfin ça s'appelle café mortel, donc c'est Bernard Creta qui a inventé ce terme, mais c'est aussi pour faire un pied de nez en disant on peut aussi parler de la mort sans être glauque, sans être grave, sans être, il y a pas que de la tristesse en fait dans la mort, il y a aussi tout plein d'autres choses.
Ça permet de considérer donc que finalement la mort fait partie de la vie et que on peut en parler de manière tout à fait douce et conviviale.
C'est
tout
ça.
Ensemble.
C'est ça, comme un sujet, voilà, comme tu dis, de la vie qui fait partie. Et je pense le fait de s'autoriser à en parler, ça désamorce aussi beaucoup de choses et ça vient tranquilliser et faire de la place à la joie et à d'autres émotions en fait. Ouais.
Et malgré tout, donc c'est un thème qui peut être assez donc délicat, on le disait, à aborder et assez intime. Qu'en est-il de la confidentialité lors de ces cafés ? Est-ce que les participants s'engagent à respecter une confidentialité ?
Alors la confidentialité, c'est pas possible parce qu'on est dans un espace public. Donc c'est vrai que c'est impossible. Par contre, nous on invite à la discrétion. Mais je pense que de toute façon, quand chaque individu va être invité à partager, après c'est pas une obligation de prendre la parole. Mais en fait, il y a quelque chose qui se tisse quand même, comme une sorte, je sais pas, de membrane. Enfin, il y a vraiment quelque chose de spécial en fait qui se passe quand on aborde ce thème. Et on invite, voilà, à parler de soi, donc à parler en jeu. Donc ça va être vraiment, on va parler de choses qui sont, voilà, qui sont personnelles. Et je pense que ça invite une forme de respect aussi dans ce qui est déposé, dans ce qui est témoigné. Ce qui fait qu'en fait, il y a, c'est vrai que le sujet est un peu plus délicat quand on est comme nous à la campagne plutôt qu'en ville, parce qu'on est amené à se recroiser. Et en même temps, moi, ma croyance, c'est que ça vient aussi nous soutenir, ou enfin nous relier quelque part dans, voilà, dans une forme d'intimité, et ce qui après peut générer d'autres liens, d'autres formes, tu vois, de aussi d'être en relation, et peut-être une personne que je croisais comme ça, bah en fait après avoir entendu son témoignage, enfin ça m'invite vraiment à bah respecter ce qu'elle vit, et peut-être à prendre plus soin de comment elle va, de, et donc voilà, nous c'est la discrétion, mais après tout en voilà en n'étant pas du tout assuré que qu'il y ait pas de divulgation quoi, mais comme on vit quelque chose quand même qui est souvent émouvant, qui est assez enfin fort, qui est beau quoi, qui est vraiment au cœur de notre humanité. Voilà, a priori quand on partage cette expérience, ça invite quand même à respecter les témoignages des autres quoi.
Oui, la discrétion se fait d'elle-même en quelque sorte.
C'est ça.
D'avoir partagé ce moment. Donc je le disais, le café sera co-animé donc à la fois par toi Claire, mais également par Agathe Bénard et Elena Morino. Quel va être votre rôle à toutes les trois lors de ce café? Faut-il une formation particulière pour les animer?
Ouais. Bah justement voilà, nous on est animatrice, c'est-à-dire qu'on va venir poser le cadre, qu'on va venir ouvrir aussi le temps du café mortel et puis le fermer, parce que tout avant et tout après il y a un temps voilà complètement informel où c'est vraiment voilà on papote de tout et de rien, mais il y a quand même besoin, enfin voilà, pour inviter la mort dans nos sujets de conversation faut quand même un peu de protocole, parce que c'est pas non plus d'une limpidité, d'une évidence, voilà, quand le sujet est quand même encore bien tabou. Donc on va être là et puis on va veiller à ce que voilà notre cadre soit respecté, donc notamment voilà parler en jeu, parler de soi, mais c'est vraiment ça. Et du coup quand on s'écoute, pareil, vraiment s'écouter, laisser les temps de les personnes parler le temps qu'elles ont besoin, laisser des petits temps de silence voilà entre chaque témoignage, ne pas exprimer de jugement envers voilà ce qui a été déposé par les autres, et mais c'est assez, on va dire c'est assez simple en même temps comme cadre, et en même temps voilà c'est différent de la vie de tous les jours, sachant qu'on est dans un café, donc souvent le café voilà ça parle fort, ça s'écoute peut-être pas trop, et donc c'est comment si on vient inviter pour moi une qualité d'écoute et une qualité de parole dans ces espaces-là. Et donc nous on est un peu comme là physiquement aussi pour garantir en fait que c'est ça qui va se passer. Et donc effectivement bah avec Elena, on a vécu une formation au mois de janvier avec on était une bonne douzaine il me semble sur Valence avec du coup l'équipe de Thanatosphère qui nous a formés pendant 2 jours. C'était hyper complet parce qu'on a eu aussi des notions sur les étapes du deuil, comment du coup prendre soin des personnes endeuillées, sur bah du coup tous les enjeux qu'il y a derrière en fait un café mortel, et comment bien animer un café mortel, faire aussi que les personnes se sentent en sécurité, se sentent invitées aussi à venir témoigner. Donc ouais, mais alors je crois pas qu'il y ait de date là de prévue pour une prochaine formation, mais l'idée de Thanatosphère c'est vraiment de former un maximum de personnes pour que les cafés mortels, qu'il y en ait de plus en plus en fait, parce que c'est vraiment aussi comme un besoin en fait, et une limite d'ordre d'utilité publique en fait, de plus parler de ce sujet-là. Parce que, enfin, voilà, on voit, et notamment depuis le Covid où la mort s'est vraiment invitée aussi bah, dans notre quotidien et plus même mondialement. En fait, c'est comme si on s'était un peu réveillé en se disant ah, mais en fait, on est mortel, quoi.
Oui, on a réalisé peut-être à ce moment-là plus concrètement notre finitude. Et ces formations donc organisées par l'association Thanatosphère à Valence, est-ce qu'elles sont ouvertes à tous et est-ce qu'elles sont gratuites par exemple?
Et ouais, en fait, c'est ça qui est génial aussi, c'est que Thanatosphère fait un travail admirable d'aller rechercher des subventions pour pouvoir en fait proposer tous ces espaces, tous les ateliers et toutes les formations gratuitement en fait. Et ça, c'est, enfin, moi, je trouve ça, c'est un beau cadeau que l'asso fait. Et donc, effectivement, ouvert à toute personne, bah, qui sent quand même l'élan de, après, de, d'animer, mais il n'y a aucune obligation, hein. Si on vient vivre la formation, on n'est pas obligé, on s'engage pas, voilà, à animer des cafés mortels. Mais c'est vrai que, voilà, c'est le but aussi de pouvoir démocratiser ces espaces-là, quoi, et de faire qu'il y en ait de plus en plus un peu partout, parce que, donc il y avait des personnes, nous on était deux du Royan, mais il y en avait aussi, voilà, sur Valence, l'Ardèche, Grenoble, Poitiers, enfin voilà, ça commence à se répandre dans toute la France.
Et peut-être que c'est l'occasion de revenir sur cette association, donc Thanatosphère. Quelles sont ses activités et depuis quand est-ce qu'elle existe?
Ouais, alors Thanatosphère, elle est basée sur Grenoble. Elle est assez jeune, hein, elle a 3 ans, et en fait, pour l'instant, elle vit un peu une phase de, un peu d'être dépassée par l'engouement, en fait, autour de, notamment donc des cafés mortels, mais aussi elle propose des ateliers qui s'appellent On ne mourra pas d'en parler, qui sont vraiment pour le coup des temps de questions-réponses avec donc un ou une professionnelle du milieu funéraire, et puis voilà, une douzaine, une quinzaine de personnes qui viennent pour poser des questions sur voilà des thématiques bien précises. Moi typiquement la vendredi dernier c'était sur qu'est-ce qu'on peut faire ou pas pour ces funérailles ou pour les funérailles de nos proches, parce que il y a aussi tout un pan ce que Agathe disait, du coup celle qui animait l'atelier, que en fait le milieu aussi du funéraire est aujourd'hui très monétisé, donc en fait c'est beaucoup voilà de business, de dépenses, et que finalement il y a très peu d'espace où c'est juste de l'information, où on peut venir échanger, se poser des questions, se dire ah bah toi t'as fait quoi machin, comment tu l'as vécu, parce que en fait bah c'est pareil en fin de vie, en fait il y a tout un tas de démarches où souvent on le découvre quand on est dedans, quand on est vraiment au cœur du deuil, mais en fait c'est pas du tout le moment de penser à toutes ces infos pratico-pratiques, et en plus voilà en France, rien n'est pensé vraiment pour la mort. Donc, il y a aussi administrativement comment c'est un peu évincé et qu'en fait, c'est hyper complexe parce qu'il n'y a rien qui est centralisé. Donc, en fait, il y a énormément de démarches. Et voilà, et souvent, quand on est touché vraiment de plein fouet par la mort d'un ou d'une proche, on n'a pas du tout... voilà, on n'a pas du tout la tête à ça, et donc c'est comment on se prépare en fait pour mieux vivre aussi, enfin faire que le deuil soit d'une certaine manière plus doux, parce qu'on sait que ça va être une épreuve, on sait qu'il va y avoir de la tristesse et plein d'autres émotions sans doute inconfortables et qui vont être très intenses. Donc c'est comment voilà on s'épaule, on s'entraide, on trouve peut-être un cercle de personnes qui vont nous aider à ce moment-là. Donc voilà, comment se préparer. De toute façon, ça va arriver. C'est la seule certitude qu'il peut y avoir dans la vie, c'est qu'on va mourir. Donc c'est voilà comment on en parle. Comment on s'informe, comment on fait des choix aussi, parce que il y a beaucoup de personnes, notamment pendant le Covid, qui ont très mal vécu le fait de pas pouvoir assister aux funérailles ou de pas pouvoir faire leur deuil vraiment. Et après, c'est quelque chose qui dure, qui impacte pendant des années et des années. Enfin, donc c'est voilà comment aussi on se rend compte que c'est important de vivre ces étapes-là et de remettre du choix aussi. Et de se sentir du coup bah voilà en capacité de choisir, donc c'est vraiment des ateliers qui sont hyper éclairants, et d'une manière générale l'asso elle vise voilà à démocratiser, à visibiliser, à sortir voilà la, donc ça c'est Café Mortel, à sortir la mort du silence, et Thanatosphère c'est plutôt à remettre de la vie dans la mort, ou à remettre la mort dans la vie, enfin il y a quelque chose de voilà d'arrêter de séparer ces deux mondes, comme si c'est voilà c'était, on pouvait pas parler de la mort tant qu'on était en vie. Si, en fait, parlons-en, parce que ça va vraiment nous faciliter la vie.
On évoquait donc d'autres rendez-vous donc à parler Café Mortel, les ateliers. C'est des ateliers qu'on a pu retrouver donc notamment l'année dernière en 2023 sur le territoire du Royan-Vercors, puisqu'il y a eu tout un printemps mortel qui était organisé. Est-ce qu'on peut faire un petit retour sur cet événement?
Ouais, bah c'était. Alors moi j'étais pas dans l'organisation, justement j'ai découvert le Café Mortel pendant le printemps mortel. Mais l'idée c'était que pendant un trimestre en fait voilà il y ait sur le territoire du Vercors et du Royan des conférences, des spectacles, des cafés mortels, des ateliers on ne mourra pas d'en parler, enfin c'était voilà hyper complet aussi dans les approches en fait et dans les sensibilités de chacun chacune. Et donc bah l'asso continue en fait à organiser comme ça des festivals, là justement un roman depuis janvier en fait, il y a tout un programme hyper complet, donc avec des ateliers on ne mourra pas d'en parler, des conférences qui a lieu, et puis J'espère, on espère qu'au printemps prochain, il y aura de nouveau un printemps mortel dans le Royaume Vercors, bah, pour de nouveau inviter cette thématique, voilà, plus en, on va dire, faire aussi une période où, voilà, ce soit condensé, pour pouvoir vraiment plonger dedans et oui, et comment aussi en tant que village ou en tant que petite communauté du Royan, on s'empare aussi du sujet et peut-être qu'on s'organise entre nous. Enfin, pour moi, il y a aussi quelque chose, enfin, pour moi et pour l'asso, enfin, de remettre du collectif aussi dans le deuil, dans la mort. Ce qui de base était le cas, en fait, de base, voilà, il y avait une personne qui mourait dans le village, tout le village était endeuillé, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas et ça manque vraiment dans le processus de deuil et de soutien. Enfin, c'est, je pense qu'il y a quelque chose aussi d'assez politique. Derrière tout ça.
On n'a pas ajouté de solitude à l'épreuve que constitue un deuil,
ouais,
peut-être.
Ouais, exactement.
Et du côté donc des cafés mortels, on parlait donc de ce café mortel que tu co-animes le mardi 4 juin de 18h30 à 20h à Jacopin à Saint-Thomas en Royan. Mais il y a également d'autres dates donc sur le territoire puisque l'association Thanatosphère organise carrément un marathon mortel, ouais, pour célébrer les 20 ans de la création de ces cafés mortels. Est-ce qu'on peut donner peut-être un autre rendez-vous? Je crois qu'il y a lieu pas loin de chez nous, qui est à Romans.
Ouais, c'est ça. Et ben effectivement, jusqu'à fin juin, en fait, à Romans, il y a des ateliers, notamment le jeudi 6 juin, donc deux jours après le Café Mortel. Donc un atelier, on ne mourra pas d'en parler, sur le coup des obsèques. Voilà, à Romans, à la maison de quartier des Ors, de 10h à midi. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller sur le site thanatosphère.fr. En fait, il y a un agenda, il y a toutes les dates. Il y a même, en fait, du coup, les dates et les événements qui se passent en dehors, en fait, de la zone Valence-Royan. Parce que, en fait, l'asso a aussi envie de répandre, en fait, les ateliers, les cafés mortels un peu partout en France. Et du coup, notamment, là, il y a la région de Cré qui est très dynamique. Il y a aussi en Ardèche. Et je sais plus où, mais allez voir sur le site. Et voilà, vous retrouverez tous les événements, toutes les infos. C'est très bien fait.
Donc, toutes les dates qui sont à retrouver sur le site de l'association Thanatosphère, www.thanatosphère.fr. Et pour terminer, Claire, est-ce qu'on peut parler de l'aspect un peu pratique? Est-ce qu'il faut réserver pour participer donc au Café Mortel?
Eh ben non, l'idée c'est vraiment qu'on puisse aller et venir en fait, voilà, comme dans un café classique, hein, je veux dire, un bar. Donc il y a pas de réservation, il y a pas besoin de dire qu'on va venir. C'est juste effectivement, donc le Café Mortel aura lieu de 18h30 à 20h. Donc si on veut arriver un petit peu avant. Pour aller commander. Nous, c'est aussi pour soutenir le lieu, parce que le lieu nous demande rien, donc Jacopin nous demande aucune contribution financière, mais nous, on se dit, voilà, comme un peu pour faire aussi une sorte de gagnant-gagnant, voilà. Nous, en tout cas, on invite à consommer. Et puis voilà, l'entrée est gratuite, parce qu'encore une fois, voilà, Thanatosphère veille à et fait un travail énorme en fait de demande de subvention pour faire que ces espaces soient accessibles, mais en même temps, ça pallie vraiment un manque, en fait. Donc, les subventions, elles sont là aussi. C'est ça, je trouve, qui est assez génial. C'est se dire, en fait, tout le monde se rend bien compte qu'il y a un énorme manque à cet endroit-là. Et donc, voilà, c'est comment cet asso y va et qu'il y a de l'engouement aussi. Donc, c'est joyeux aussi pour nous de nous rendre compte qu'il y a du monde qui est au rendez-vous. C'est chouette.
Donc, entrée libre, gratuite et sans réservation pour ce café mortel. Si on a éventuellement des questions, je crois que l'association donne un contact.
Ouais, c'est ça. Alors, vous pouvez envoyer un message ou appeler au 06 03 82 15 00.
Et merci beaucoup à Claire, donc, qui co-anime le café et qui est venue nous en parler ce matin.
Merci à vous.
Salut, c'est Mbalou et je vous propose une petite playlist de la mort. Bonne écoute.
Des vivants qui s'enterrent On goûte à la mort du bout des lèvres. Ce qui fleurit, c'est que des crises en thèmes. Le temps s'est écoulé, il est hors délai. Je connais des vivants qui s'enterrent. Le plus inquiétant des bruits, celui du silence. Les battements sont tous les mêmes, pourquoi c'est si lent? Ok, t'es parti à la nage, finis pas sous l'eau. Il a filé comme une étoile à vitesse grand V. Je l'ai envie des fois comme si le ciel voulait me convier. Ce monde me rassure pas quand j'y vois tout ce qu'on vend. Est-ce que si on efface tout serait mieux qu'avant? Est-ce que tu sais que tu récoltes tout ce que tu sèmes? C'est comme ça qu'en somme que les trajectoires sont calculées, tu sais. Je connais des vivants qui s'enterrent. Ils goûtent à la mort du bout des lèvres. Ce qui fleurit, c'est que des crises en thème. Le temps s'est écoulé, il est hors délai. Je connais des vivants qui s'enterrent. Le plus inquiétant des bruits, celui du silence. Les battements sont plus les mêmes, pourquoi c'est si lent? Ok, t'es parti à la nage, finis pas sous l'eau. À toutes nos étoiles filantes, les souvenirs reviennent sous fond de mélos. T'es parti à une vitesse hallucinante. Meilleur de tes qualités, c'était d'aimer l'autre. Je comprends rien aux équations. Imagine les problèmes. Tu connais le sol, il est grave sombre. En fin de compte, y'a zéro projet. J'ai des craintes, mais tu sais pas. Chaque jour un peu plus, on se sépare. Appelle manqué, faut que je m'épargne. Comprends moi-même, le courant me dépasse. Je connais des vivants qui s'enterrent. Je connais des vivants qui s'enterrent. Je suis pas préparé à ce qu'ils s'en tiennent. Par ceux qui sont partis vu qu'on est resté. Le pas est lourd et douloureux parce qu'on est lesté. Par le poids des si j'avais su aussi j'étais, etc. Si tu veux retrouver la paix, vaut mieux les laisser espérer. Les regrets, on le reconnaît aux phrases qui commencent par des j'aurais dû. Bloqué dans mes phases, il me faudrait bien plus encore qu'un jour ou deux. Viser vers les cieux parce qu'on sait qu'ils y sont. La lueur s'est fait rare, ici c'est quasi sombre. Blocage quand je me mets à parler d'elle. Je lui souhaite le meilleur, de toute façon y a rien de mieux à parler d'elle. Amen.
S'en vont aller quand le dernier jour s'est levé dans la lumière blonde. Quand ceux qui vont s'en vont aller pour toujours et tout jamais sous la terre profonde. Quand la lumière s'est voilée, quand ce que nous avons aimé ont fermé leurs paupières. Si rien ne leur est épargné, oh que du moins soit exaucé leur dernière prière. Mais qu'ils dorment, s'endorment, tranquilles, tranquilles, qu'ils ne meurent.
tireurs bas au fusil, en expirant déjà la vie qu'à peine ils allaient vivre. Ils gémissent par leurs cris, seuls rejetés ou incompris, éloignés de leurs frères. Ils ne meurent pas en troupeau, bien poignardés dans le dos, ou qu'ils s'acheminent en allant troupeau de la mort, sans ciel, sans arbre, sans décor, et le feu à la poitrine. Eux qui n'avaient rien demandé, mais qui savaient s'émerveiller d'être venus sur terre. On leur laisse choisir au moins le pays, fut-il lointain de leur dernier. Qu'ils aillent donc toucher leur corps de sous les ciels pour préséant au-delà des frontières, ou qu'ils s'endorment enlacés comme d'éternels fiancés dans la blonde lumière. Et à tout jamais, au chantier du silence, sous leurs grandes maisons de marbre, dans les grandes allées sans arbre, je pense à vous, ma mère, qu'ils aient pour dernier souvenir la chaleur de notre sourire, comme étreinte dernière. Peut-être qu'ils dormiront mieux si nous pouvons fermer leurs yeux.
By the lane, the sweetest tunes to ease her pain. When she was was an owl I saw swaying in the sky. The day she died inside my arms, I realized she was a cat. Oh, tous les trains me mènent à lui. Donc comme tous les soirs,
la boule au ventre. Je refais le monde avec des si. Oui, je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, en insultant ta foutue maladie. Oui, je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. Larme à l'œil, la boule au ventre. Je refais le monde avec des si. Oui, je roule.
Across the street, above the green in the flat with the colourful curtains, Alicia's wrapped in her blankets, head leant back on the wall, she's gripping her knees, looking for purpose, shaking and nervous. She keeps a brave face on all day long, but now the brave face is gone. Something in the changing seasons prickled in her skin all day, sucked her back through time and left her feeling far away. He was in her dream. She hasn't dreamt of him for months. She's so tired when she sleeps, she doesn't really dream at all. But there he was, holding his belly, blood on his shirt. She heard him scream her name, and then she saw him fall. Alicia wipes her face and whispers to herself, "It was just a dream." She sniffs and nods and dries her eyes. She checks the time. It's 4:18. It's a strange thing, your face seems to fade with the changing seasons. Then for some reason it comes back more present than ever. Well, not your face really, more a sense of you. Even though I know it's happened, it's no more comprehensible than if it was an abstract thing, someone else's friend. Are you asking me for something? Is there something I should do? It's hard on your mother, she lost your little brother too. But your sister's doing good, man, she's smart, smart like you. And she'll finish her degree next year, try and find a job. I suppose she's got her head screwed on right, you don't have to worry. Is there something else though? I mean, if there is, I'm sorry, cause I can't really think what you might want from me.
I heard your voice a lot, it woke me up. I don't believe in ghosts.
Work's fine, life's good, Ty's nearly four now. Smart enough to walk round and hear what I don't say. The night it happened is vivid in my brain, it won't fade. Life is long still, some things don't change. Nice to fall in love again, but that ain't gonna happen soon. I'm trying to get some money saved, fix up the living room. Nearly got in trouble, I got angry with my manager. There's this young girl who works with us, he tried to put his hands on her. It's such a waste, so many idiots alive and kicking. Why'd it have to be the only sane man in town? Well, I'm probably only saying that cause you're not around. But I'm keeping my chin up though, I don't let it get me down.
I heard your voice aloud, it woke me up. I don't believe in ghosts.
You're with me all the time. I think I know you better than I did when we were hanging out together. What's it like where you've gone? Well, I can feel it. It's okay, I know you can't say. But you've been with me all day. I have to tell you, when it happened, I couldn't cry for ages. But when it hit me, I fucking screamed like a lion in a cage. And look, I fasted. I didn't eat a thing for like a week. And I just walked across the heath in the rain, spitting bars to the grass and listening to the cars skidding past. I thought life would get more real or something more fast, but it didn't. When I look at your son, no, life's hidden meanings come to the front of my vision, and it's weird the way I see it right now. It's so strong. I'd never be the person I'd become if you were never gone. Everything's connected, right? Everything's connected. And even if I can't read it right, everything's a message. We die so that others can be born. We age so that others can be young. The point of life is live, love if you can, then pass it on, right? We die so that others can be born. We age so that others can be young. The point of life is live, love if you can, then pass it on.
Aujourd'hui tu aurais une année de plus, et moi peut-être je serais tout aussi perdue, mais je me réjouirais de ta venue. Aujourd'hui on aurait fêté le printemps qui arrive le jour de tes 56 ans, et on aurait bien ri pourtant. Aujourd'hui j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en lasser. Je pense pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Aujourd'hui tu aurais quelques cheveux blancs, et moi peut-être le visage moins enfant. On rirait de ce qui change avec le temps. Aujourd'hui on se dirait nos éblouissements. Tu offrirais ton visage au vent. Oh les cœurs, notre amour est grand. Aujourd'hui j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en lasser. Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger? À toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger?
Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler. Et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire. Je veux pleurer de torrents de larmes. Je veux boire du bateau entier de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, griller, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrons, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord ?
We will now do the national anthem, but you needn't rise. And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case. Of which I'm certain, I've lived a life that's full, traveled each and every highway, more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew, when I bit off more than I could chew, and with it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I grew tall through it all, and did it my way. I've loved, laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, but now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, no. No, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Sur de lui, Et voilà que George revient et remplace sa guitare par une guitare électrique. Sandro ne joue plus de la mandoline, il joue les synthétiseurs et la tumba. Et moi, j'apprends à danser.
Mais nous, on a envie d'y croire. Vous voyez, les Napolitains aiment les choses qui finissent bien. Pour nous, Gigi est toujours vivant et il nous attend.
Au soleil.